Nous allons parler du credo de Paul VI. Le temps que nous vivons avec cette année de la foi peut ressembler au temps que l'Église a vécu en 1968. Le pape Paul VI souffrait de la grave crise de la foi. Et c'est pour cela qu'en 1967, il avait décrété une année de la foi et le 29 juin 1968, au cours de cette année de la foi, il avait promulgué le credo du peuple de Dieu, que l'on appelle aussi le credo de Paul VI. Au cours de l'audience du mercredi 30 octobre 1968, Paul VI disait « La foi est notre premier devoir. La foi est pour nous une question vitale. La foi est le principe irremplaçable du christianisme. C'est la source de la charité, le centre de l'unité, la raison d'être fondamentale de notre religion. Aujourd'hui, contrairement à ce qui devrait arriver avec le progrès humain, la foi, disons l'adhésion à la foi, est devenue plus difficile. Philosophiquement, à cause de la contestation croissante des lois de la pensée spéculative, de la raison naturelle, de la valeur des certitudes humaines, le doute, l'agnosticisme, le sophisme, l'absence de préjugés devant l'absurde, le refus de la logique et de la métaphysique, bouleversent l'esprit des modernes. Si la pensée n'est plus respectée dans ses exigences rationnelles intrinsèques, la foi aussi, qui, rappelons-le, exige la raison, la dépasse, mais l'exige, la foi aussi en souffre. La foi n'est pas un fidéisme, c'est-à-dire une croyance privée de base rationnelle. Elle n'est pas seulement une recherche obscure de quelque expérience religieuse, elle est possession de la vérité, certitude. Je pense que là, il faut souligner ce que disait Paul VI, la foi est possession de la vérité, certitude. Si ton œil est malade, dit Jésus, tout ton corps sera dans les ténèbres. Les remèdes qui sont recherchés de tant de côtés pour résoudre les crises modernes de la foi sont souvent illusoires. Il en est qui, pour redonner de la force au contenu de la foi, le restreignent à quelques propositions de base qu'il pense être la signification authentique des sources du christianisme et de l'écriture sainte. Il n'est pas nécessaire de dire combien est arbitraire, même s'il est revêtu d'apparence scientifique. Oui, Benoît XVI est revenu sur cette soi-disant apparence scientifique. Et combien désastreux est un tel procédé ? Il y en a d'autres, au contraire, avec des critères d'un empirisme déconcertant qui s'arrogent le droit de faire un choix entre les nombreuses vérités enseignées par d'autres credos, par notre credo, pour repousser celles qui ne plaisent pas et pour en retenir quelques-unes plus agréables. Donc ce que veut dire Paul VI, c'est que dans la crise qui était vécue dans les années 67-68, eh bien certains... avait fait une sélection dans les articles de la foi pour ne retenir que ce qui pouvait être accepté par le monde moderne. D'autres, enfin, cherchent à adapter la doctrine de la foi à la mentalité moderne, faisant même de cette mentalité, qu'elle soit profane ou spiritualiste, une méthode et une mesure de la pensée religieuse. L'effort bien digne par lui-même de louange et de compréhension accompli par ce système pour exprimer les vérités de la foi en termes accessibles au langage et à la mentalité de notre foi a parfois cédé au désir d'un succès plus facile, taisant, tempérant ou modifiant certains dogmes difficiles. Tentative dangereuse encore qu'elle soit nécessaire, elle mérite un accueil favorable seulement lorsqu'elle conserve dans la présentation la plus accessible de la doctrine sa plus sincère intégrité, que votre parole soit oui, oui, non, non, en excluant toute ambiguïté artificielle. ces paroles de Paul VI, donc vous aurez le texte, hein, parce que c'est trop difficile de tout assimiler. Ces paroles de Paul VI révèlent clairement les raisons qui l'ont poussé à promulguer le credo du peuple de Dieu, que je voudrais vous présenter d'une manière synthétique. Ce credo de Paul VI est, c'est évident, beaucoup plus développé. Vous voyez ici, bien évidemment, beaucoup plus développé que celui de Nicée-Constantinople. Pourquoi ? Parce qu'il a intégré plusieurs développements dogmatiques des grands conciles universels qui se sont déroulés après le concile de Constantinople en 381 et qui approfondissent les 12 articles du symbole des apôtres en répondant aux erreurs que le malin père du mensonge n'a pas cessé d'inspirer tout au long de l'histoire de l'Église. Le premier article du symbole n'est pas présenté de la même manière. Le Créateur n'est pas le Père seul, mais la Trinité. Dieu, Trinité, est le Dieu un. Dieu est être et amour. Le Père engendre éternellement le Fils. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il est comme leur éternel amour. Le premier article précise la nature des êtres invisibles qui sont créés, les purs esprits ou les anges. Il est aussi précisé que Dieu crée en chaque homme une âme spirituelle et immortelle. Donc déjà, dans ce premier article, vous voyez, on a intégré la théologie sur le mystère de la Trinité pour bien montrer que la création n'est pas l'œuvre seulement du Père seul, mais l'œuvre de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Et on a répondu aux erreurs du temps, puisqu'actuellement il y a des personnes qui disent que les anges n'existent pas et que l'homme n'a pas une âme spirituelle. Voilà, donc premier article répond à ces erreurs. Le deuxième article n'apporte pas de développement par rapport à Nicée-Constantinople, mais il demande de conserver ce que la traduction française du credo n'a pas conservé, le homoousios consubstantiel au Père. Voilà, de même nature que le Père, c'est trop faible. Donc il faudra que dans la prochaine traduction du credo de Nicée-Constantinople, on ait une traduction qui soit plus fidèle au texte latin et grec. Le troisième article développe le mystère de l'incarnation du Verbe en intégrant l'enseignement dogmatique du concile de Chalcédoine. Comme frère Benoît vous l'a expliqué hier soir, Constantinople, c'est en 381. Donc, on a bien répondu aux erreurs. Donc, c'était déjà plus que Nicée 325. On a répondu aux erreurs d'Arius, mais il nous manquait encore un développement pour bien comprendre ce mystère du Christ. Et ce développement sera fait en 451 au concile de Chalcédoine. Donc, le troisième article intègre ce qui a été donné au concile de Chalcédoine sur l'unicité de la personne divine de Jésus qui possède les natures divines et humaines, et ces natures ne sont pas confondues. Hein. Parce que la difficulté, est-ce que Jésus est une personne humaine ? Il y a actuellement une resurgence d'hérésie à ce niveau-là. Jésus n'est pas une personne humaine, car s'il était une personne humaine, nous aurions la personne divine du Fils et nous aurions la personne humaine de Jésus. De même qu'on dit que l'Esprit Saint habite pleinement dans la Vierge Marie. Or, dans la Vierge Marie, nous avons la personne humaine de la Vierge Marie et la personne divine de l'Esprit qui est dans la Vierge Marie. Or, l'Esprit Saint n'est pas la Vierge Marie. Donc, si vous voyez, la foi, elle est très importante. Il n'y a qu'une seule personne, la personne divine du Fils de Dieu, qui a assumé la nature humaine. Et il a fallu attendre le concile de Chalcédoine en 451 pour trouver les mots précis pour dire la foi. Mais bien évidemment, les apôtres ont proclamé que Jésus était Dieu. Mais comment arriver à montrer rationnellement que cet homme, Jésus, est Dieu? Eh bien, il a fallu 5 siècles pour y arriver à le dire avec des mots précis. Donc, il est l'unique personne divine du Fils de Dieu qui possède deux natures, nature humaine et nature divine. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Voilà. Donc, et puis ensuite, dans ce troisième article, est également ajoutée une petite synthèse sur les enseignements de Jésus concernant le royaume, concernant son Père, concernant le commandement de l'amour et les béatitudes. Alors là, vous avez l'amour qui est arrivé dans le credo de Paul VI. Hein. Le quatrième article, hein, précise le mystère de la rédemption. Jésus est mort pour nous, il nous sauve par son sang rédempteur. Mais on peut dire que c'était déjà contenu pratiquement dans la Nicée-Constantinople. Le cinquième article précise que Jésus est ressuscité de son propre pouvoir et que par sa résurrection, il nous élève au partage de la vie divine qui est la vie de la grâce. Vous voyez. Donc, cela est déjà contenu dans saint Paul. Hein. Il a accompli la rédemption en mourant sur la croix, il est ressuscité pour notre justification. Donc, la résurrection de Jésus concerne bien évidemment son être lui-même, mais nous concerne nous, puisque nous participons déjà maintenant sur cette terre à la résurrection de Jésus, et nous participons justement à cette vie divine qui nous est communiquée. Le sixième article n'a aucun approfondissement par rapport au symbole et au credo. Alors, sixième article, vous ne le connaissez pas tous par cœur, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas d'approfondissement là-dessus. Peut-être qu'un jour, dans le catéchisme, il est important de le rajouter aussi, parce qu'aujourd'hui, certains mettent en doute que Jésus soit monté au ciel. Le septième article parle du feu qui ne s'éteint pas, pour ceux qui auront refusé jusqu'au bout l'amour et la pitié de Dieu. Cet ajout, c'est évident, répondre à la grave erreur de ceux qui, aujourd'hui, nient l'enfer. Hein? Et ils sont nombreux. Voilà. Le huitième article n'apporte pas d'éléments nouveaux. Alors, huitième article, je crois en l'Esprit Saint. Donc, frère Augustin, hier soir, a développé ce qu'a dit le Concile de Constantinople au sujet de la doctrine sur le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'élément nouveau sur la théologie du Saint-Esprit, mais dans ce huitième article, deux importants développements sont à noter. La mariologie, donc la théologie sur la Vierge Marie, selon l'enseignement de Vatican II, et surtout le péché originel, selon le Concile de Trente. Ces deux enseignements, mariologie et péché originel, en l'année 1968, avaient vraiment besoin d'être rappelés par le magistère. Le pontificat de Jean-Paul II et le développement de la dévotion au cœur immaculé de Marie ont permis de nouveaux développements. La doctrine du péché originel, par contre, est toujours remise en question par des théologiens. Il faut donc s'appuyer sur le credo de Paul VI et le catéchisme de l'Église catholique pour dire que la doctrine du péché originel n'est pas une doctrine dépassée, mais un enseignement dogmatique sans lequel on ne peut pas comprendre la réalité de la nature humaine dont nous héritons à notre naissance. Le neuvième article du symbole, Sainte Église catholique, communion des saints. Donc hier, on n'a pas dit, parce qu'on ne vous a pas tout dit, que dans le Nicée-Constantinople, on a ajouté « Je crois à l'Église une sainte catholique et apostolique », les quatre notes donc de l'Église. Alors dans ce neuvième article concernant l'Église, eh bien nous avons le plus grand développement du Concile Vatican du credo de Paul VI. Alors ce neuvième article est d'abord situé après le dixième. Donc, j'ai fait un petit travail pour vous mettre les numéros qui correspondent. Donc, j'ai essayé de 1, 2, 3. Donc, le dixième article est présenté dans le credo de Paul VI avant le neuvième. Ça n'a pas d'importance. ça n'a pas d'importance. Donc, le dixième article, c'est, je crois, la rémission des péchés. Et le credo de Nicée-Constantinople avait ajouté, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Voilà. Alors, donc, ce neuvième article concerne l'unique baptême pour la rémission des péchés. Je note l'ajout du baptême des petits-enfants en vue de renaître de l'eau et de l'Esprit-Saint à la vie divine dans le Christ Jésus. Même s'il y a une petite inversion, cela n'a aucune importance. L'intégralité de la foi des apôtres est bien maintenue. Dans le neuvième article concernant l'Église, nous avons une très précise synthèse de la constitution dogmatique de Vatican II, Lumen Gentium. Nous ne pouvons que vous inviter à méditer attentivement cette riche et magnifique synthèse. Deux développements importants suivent. Le premier développement sur la messe, le sacrifice du calvaire rendu sacramentellement présent sur notre autel. Et là aussi, vous comprenez l'importance, en 1968, de rappeler que la messe est l'actualisation du sacrifice du calvaire. Parce que c'était aussi une erreur qui était beaucoup répandue de ne plus croire au saint sacrifice de la messe. Le second développement, sur le mystère du changement du pain et du vin en corps et sang de Jésus, et sur la présence vraie, réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. Des théologiens, dont Karl Rahner, demander d'abandonner le mot transsubstantiation pour dire le changement du pain et du vin en corps et sang de Jésus. Leur raison était que les personnes aujourd'hui ne pouvaient plus comprendre ce mot, car vous êtes incapables de comprendre le mot substance. Donc, Karl Rahner avait trouvé deux mots beaucoup plus simples, transsignification ou transfinalisation. C'est évident que c'était beaucoup plus simple et que vous auriez mieux compris. Bon, donc Paul VI a dit non. Et voilà ce que dit dans le credo Paul VI. Ce changement mystérieux, donc le changement du pain dans le corps du Christ, du vin dans le sang du Christ, l'Église l'appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation. Toute explication théologique cherchant quelque intelligence de ce mystère doit, pour être en accord avec la foi catholique, maintenir que dans la réalité elle-même, indépendante de notre esprit, le pain et le vin ont cessé d'exister après la consécration, en sorte que c'est le corps et le sang adorable du Seigneur Jésus qui, dès lors, sont réellement devant nous, sous les espèces sacramentelles du pain et du vin, comme le Seigneur l'a voulu, pour se donner à nous en nourriture et pour nous associer à l'unité de son corps mystique. Alors certainement, des esprits vont dire, mais quelle complication, pourquoi venir parler de la transsubstantiation, du mystère de l'Eucharistie, dans cet article 9 du Credo qui parle de l'Église. Quel rapport avec tout ça? C'est du fouillis, etc. Eh bien, il faut dire ce qu'ont dit les pères de l'Église. L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. Si on ne croit plus au mystère de l'Eucharistie, c'en est fini du mystère de l'Église. Et Benoît XVI, qui est le théologien de l'ecclésiologie, a toujours préféré cette ecclésiologie eucharistique, puisque c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Donc, vous comprenez l'importance de cet article. Alors, le grand théologien qui est dessous ce credo de Paul VI, c'est le cardinal Charles Journet. C'est au cardinal Charles Journet et aussi un philosophe, Jacques Maritain, que Paul VI a demandé justement de travailler sur ce credo du peuple de Dieu. Le dernier développement de l'article 9 est une synthèse de la constitution pastorale de Vatican II, Gaudium et Spes. Si la mission propre de l'Église est d'être sacrement du royaume de Dieu, unissant les hommes à Dieu et les hommes entre eux, le vrai bien temporel des hommes ne lui est pas étranger. La doctrine sociale de l'Église en est la preuve. L'Église s'engage aussi pour la civilisation de l'amour. Et donc, on continuera à s'engager pour la défense de la famille. Ça fait partie de la mission de l'Église. Et donc, le 24 mars, commencez à vous préparer pour montrer à notre président de la République que nous sommes là pour défendre la famille. Bon. Le 12e article précède le 11e. Là, il y a petite encore inversion. Donc, le 12e article, c'est croire à la vie éternelle. Et puis, le 11e, à la résurrection de la chair. Le credo de Paul VI préfère parler de la vie éternelle dont jouissent déjà ceux qui sont morts dans la grâce du Christ et qui sont au purgatoire ou au paradis. Le 11e article du credo sur la résurrection de la chair est bien sûr confessé, mais la conclusion du credo du peuple de Dieu est un développement sur le mystère de la communion des saints. Cette communion englobe les membres de l'Église sur la terre, au purgatoire et au ciel. Le credo de Paul VI est ainsi marqué par l'ecclésiologie de communion de Vatican II. La communion de tous les fidèles du Christ forme une seule Église. Cette communion est efficace. Je cite le texte. Nous croyons que dans cette communion, l'amour miséricordieux de Dieu et de ses saints est toujours à l'écoute de nos prières, comme Jésus nous l'a dit, « Demandez et vous recevrez. Ainsi est-ce avec foi et dans l'espérance que nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. » Notre fondateur s'est beaucoup appuyé sur ce credo de Paul VI. Il louait le courage de ce grand pape qui, en l'année 1968, a eu le courage de donner le credo du peuple de Dieu le 29 juin et de donner l'encyclique Humanae Vitae le 25 juillet suivant. Paul VI voulait vraiment, dans la tourmente de 1968, aider les chrétiens à garder la vraie foi. Et dans l'histoire de l'Église, ce pape qui a énormément souffert pourra vraiment être montré en exemple comme le pape qui a gardé la foi. Et le pape qui nous a donné les éléments qui vont permettre à leurs successeurs de nous donner ensuite le catéchisme de l'Église catholique,